Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est tout pile 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Trump est-il fou ? Enquête documentaire à voir sur C8. On a d'abord pensé avec force ennui à ces marottes de journalistes qui se bouchent le nez face à un élu populiste. À cet anti-Trumpisme primaire qui use des mêmes raccourcis et des mêmes séquences virales que Donald Trump lui-même. Mais la patatras, sortie américaine du livre Fire and Fury, révélation effarante sur les réactions de l'homme le plus puissant du monde, le débat sur l'état mental du président américain fait réellement rage dans tous les médias. Sa première visite médicale officielle est prévue pour vendredi. Hier, communiqué précision officielle de la Maison Blanche pour dire qu'elle ne comportera pas d'examen psychiatrique. De son côté, Trump tweetait furibard ce week-end. Je pense qu'on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie et de génie très stable en plus.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Victor Robert.
Bonjour Sonia.
Vous produisez, incarnez et commentez une série de documentaires à voir cette saison sur C8. Alors premier volet, Trump est-il vraiment fou ? Tout est dans le vraiment, c'est diffusé lundi soir, pile dans le mille de l'actu, avec toutes les réserves et les questions qu'un journaliste est en droit de se poser, évidemment face à ce type de sujet. Hein, cette folie n'est-elle pas le fruit d'une, on va dire peut-être d'une co-construction médiatique de la part de Trump et des journalistes, parce qu'on a l'impression qu'en même temps, ça fait le beurre de tout le monde. On va dire quand même d'abord un mot de votre ancienne vie, qui n'est pas très ancienne puisqu'elle date d'il y a quelques mois. Vous avez été l'année dernière le visage du Grand Journal, fin de partie en mars, après une saison présentée à peine aux deux tiers.
On va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Soyons décents, ce n'est que de la télé, même si c'est de la télé qu'on aime faire. Et comme dit Michel Denisot, qui aurait aimé être avec nous ce soir, vu de la lune, tout ça n'est pas très grave.
Tout ça n'est pas très grave. C'est rare d'ailleurs d'entendre à la télé, tout ça n'est que de la télé.
Bon, il faut être décent.
Oui.
Une émission qui se termine n'est pas une usine qui ferme.
Non,
même
c'est
s'il
pas
y a
une
quelques
usine.
Sacrifiés.
Oui, il y a quelques sacrifiés
ouais,
quand même.
Oui, il faut y penser quand
final,
même.
Au final, et dans la presse en ce moment, il y a pas mal de.
C'était une merveilleuse expérience. De
ouais.
toute manière, on savait que ça allait se terminer. C'était 6 mois avec une belle équipe.
Que
on
ça allait se terminer au bout de 6 mois. Vous saviez
non,
que ça allait se terminer en cours de route.
Pas au bout de 6 mois, mais moi j'ai pris ça. Vous savez, c'est une grosse machine. Elle est moins regardée, mais on s'assoit dans le fauteuil du Grand Journal. On appuie sur la pédale. C'est comme conduire une grosse voiture. Et c'est très très agréable, donc moi j'en ai profité. Puis finalement à la fin, dans la petite histoire de la télé, on sera 4 à avoir fait le Grand Journal.
Voilà.
Michel Denisot, Antoine Decaune, Maïtena Birabin et moi.
Et vous.
Et vous, voilà.
D'accord. Pourquoi ça s'est arrêté en cours de route ? Quel bilan vous en tirez ?
Non, mais je pense qu'on a... Il y a eu des erreurs. Une erreur éditoriale, c'est qu'en pleine campagne présidentielle, en plus une campagne express très intéressante d'Emmanuel Macron, on ne fait pas de politique dans l'émission. Mais c'était le contrat, hein, c'était pas imposé. On a fait beaucoup de promos et que.
Comment ça, c'était le contrat ? C'était votre choix à vous, journaliste, de pas traiter la politique dans le Grand Journal en année présidentielle ?
Non, c'était pas un choix, mais après je l'avais accepté. C'est-à-dire que je pense
c'était
qu'on a
une
fait
demande
trop
de la
promos.
Chaîne.
C'était pas une demande de la chaîne, mais il y a de la politique ailleurs. Il y avait de la politique après nous, donc Cyril Eldin s'en chargeait. Donc voilà, il y avait assez de politique sur la chaîne et on nous a demandé de mettre l'accent sur la promo et je crois que ça a été une erreur. Voilà.
Voilà, puis mais une émission lancée à moitié en crypté, puis ensuite en clair, ensuite stratégie.
Oui, tout ça s'est corrigé, mais...
En cours de route, ça vous a pas beaucoup aidé ?
Non, ça nous a pas aidé, mais on a porté le maillot jusqu'au bout. Moi, quand je porte le maillot d'une chaîne, je le porte jusqu'au bout et je transpire dedans.
C'est ça. De toute façon, vous continuez de transpirer pour le groupe Canal, puisque aujourd'hui, vous travaillez pour C8 et que ça en fait partie.
Et normalement, je transpire à cette heure-là. Hein. Je fais mon petit vélo à 9h30.
On est très, très content de le savoir. On va parler un peu d'actualité des médias. Steve Bannon, obligé de quitter la direction du site d'info ultranationaliste et volontiers complotiste Breitbart News. Pourquoi ? Parce que la Maison Blanche ne pardonne pas à son ancien conseiller ses révélations sur la famille Trump dans le fameux bouquin Fire and Fury qui n'en finit pas de faire des vagues. Steve Bannon, dangereux idéologue, privé de son principal outil d'influence donc, le site Breitbart News. En France, deux chaînes du groupe TF1 changeront de nom à la fin du mois. HD1 qui devient TF1, série film, et NT1 qui devient TFX. Ce sont deux chaînes gratuites de la TNT. À lire d'ailleurs, c'est très intéressant, sur le site de BFM Business, les résultats financiers des chaînes de la TNT qui perdent collectivement de plus en plus d'argent. Seuls BFM TV, Gulli et Sister sont bénéficiaires. Toutes les autres sont dans le rouge. La Palme à C8, votre chaîne, Victor Robert, j'en suis désolée. Filiale de Canal, la plus regardée d'ailleurs des chaînes de la TNT. grâce aux audiences d'Hanouna et d'Ardisson. Mais celle qui perd le plus d'argent, 50 millions d'euros en 2016, des pertes accrues de 67% en un an. Je sens que vous mourrez d'envie de commenter cette information, Victor Robert.
Je ne fais pas de commentaires sur les finances.
Retournez faire du vélo. Cyril Petit, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef au JDD, pendant qu'on réveillonnait là, pendant les vacances, que les quotidiens français augmentaient leurs prix. Hein, c'était toujours la bonne surprise
même.
Du 1er janvier, quand on arrive au kiosque et que la distribution des journaux papier faisait carrément faillite en France. Eh bien, une institution a disparu au Québec, Cyril.
Oui, la presse papier est morte le 31 décembre. Alors, la presse, c'est le nom du journal, était l'un des plus vieux journaux imprimés au monde. Ses rotatives tournaient depuis 1884. Il vit désormais sa vie en numérique et plus particulièrement, et c'est leur particularité, sur la tablette avec un nom allongé, la Presse Plus.
Voilà, alors dès 2010, et c'est ça qui est assez génial dans cette histoire, dès la naissance de l'iPad, le patron du journal avait prémédité sa disparition.
Il avait tout misé, tout prévu, 27 millions d'investissements, 200 recrutements, des pièces fermées à triple tour pour préparer le projet en secret. J'avais eu la chance de passer du temps chez eux en 2012. Guy Crevier, le PDG de l'époque, datait déjà la mort du journal papier à avant 2018. Il a tenu promesse, il avait tout prévu et il a agi par étapes. La version tablette lancée gratuitement en 2013. Des lecteurs incités à se désabonner du papier payant pour aller sur la tablette gratuite.
Non mais c'est génial quand même. C'est le seul service d'abonnement au monde qui appelait les gens pour leur dire « Désabonnez-vous, désabonnez-vous !»
On incitait vraiment à aller sur la tablette. Et puis on a fait une autre étape, c'est-à-dire que le quotidien imprimé est devenu un hebdomadaire imprimé. Et puis depuis quelques jours maintenant, même le quotidien n'est plus imprimé.
Bon alors ça marche ?
Les résultats sont plutôt bons, disent les représentants de la Presse Plus. 270 000 exemplaires quotidiens sur la tablette, c'est autant que sur le papier. Mais attention, c'est gratuit sur la tablette et donc ça ne rapporte pas d'argent. Donc tout vient de la publicité. Mm-hmm. Le lectorat s'est carrément rajeuni et il passe de plus en plus de temps, 40 minutes par jour en semaine, sur le journal tablette. La presse donc revendique des revenus publicitaires similaires au papier, mais refuse de dire si l'équilibre général est rentable pour une rédaction encore importante, hein, puisqu'elle compte 250 salariés.
Voilà, et c'est en fait, il y a très peu de journaux qui ont basculé 100% sur tablette, Cyril.
Il n'y en a pas. Beaucoup d'éditeurs français sont allés s'inspirer, parce que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Hein. Sont allés voir ce qui se passait là-bas, mais personne n'est passé le pas, n'est assez allé aussi loin. La Presse Plus est le seul qui a osé vraiment. Il faut dire qu'en France, l'espoir qu'on avait mis dans les tablettes, on avait dit à un moment, ça va sauver la presse, a été déçu. Et en France, ces tablettes représentent environ 9% des lectures de presse. C'est très peu. Les éditeurs français, les journaux misent essentiellement
sur les smartphones. Et alors, que sont devenues les prévisions du fameux Ross Dawson? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Victor Robert, il nous avait tous fait trembler. Moi, j'étais journaliste à l'époque au Figaro. C'était le futurologue de la presse qui avait publié une carte avec pays par pays la date de mort du papier. Alors, aux États-Unis, c'était 2017. Raté.
Raté. Donc, il s'est fendu d'un billet le mois dernier pour admettre qu'il était allé un petit peu vite en besogne concernant les États-Unis, concernant aussi le Royaume-Uni, où il prévoyait 2019, ou encore le Canada, on en parlait, où il prévoyait 2020. En revanche, pour la presse quotidienne en France, il avait prévu que le papier deviendrait insignifiant en 2029. Là aussi, il s'est corrigé et il dit aujourd'hui qu'il a été trop optimiste.
Trop optimiste. Donc dans moins de 10 ans, plus de journal du dimanche au kiosque.
Et la presse américaine peut dire merci à Donald Trump aussi. Hein.
Oui, la presse américaine peut dire merci à Donald Trump. Il a tout à fait raison, Victor Robert. Il a toujours raison, Victor Robert. Bah, justement, on va.
Et dans 10 ans, il y aura encore un journal du dimanche, Sonia, quel que soit le support, quand même. Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Et quelles que soient les prévisions de Ross Dawson.
Exactement.
Un mot d'ailleurs sur la presse américaine. Le Washington Post finit 2017 avec des chiffres miraculeux. Il a doublé le nombre de ses abonnés numériques, triplé le nombre de ses abonnés numériques depuis 2015. Record de chiffre d'affaires publicitaire en ligne. La rédaction est passée en un an de 700 à 800 journalistes et continue de recruter. Je rappelle en effet que le journal s'est vu décerner un prix Pulitzer pour la couverture de la campagne Donald Trump et qu'il a été racheté par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, en 2013. Donc on ne peut pas dire que ce soit le papier qui lui fasse faire des miracles, mais vraiment l'orientation du côté des nouvelles technologies.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Smart, en anglais, signifie malin, intelligent. Donald Trump dans le texte.
Trust me, I'm like a smart person. I'm a very smart person.
I'm smart. I'm like a smart person.
Thank you.
I'm a smart person, répète à l'envi le président des États-Unis. Victor Robert, je l'ai dit, vous produisez, vous commentez et vous incarnez à l'antenne une série de documentaires sur C8. Le premier, Trump est-il vraiment fou? L'enquête est signée de Baptiste Munkerschurm. Vous décidez de consacrer une enquête documentaire à la supposée folie de Donald Trump. C'est devenu une ancienne dans la presse américaine. Est-ce que vous vous méfiez? Est-ce que vous vous méfiez de la façon dont un journaliste doit traiter ce type de sujet?
Non, pas du tout. Alors, ce sujet est dans l'actualité aujourd'hui. Mm-hmm. Ce sujet, on en a eu l'idée il y a 9 mois déjà. Mm-hmm. C'est parti sur un fait d'actualité dans la presse américaine, justement. C'était une petite brève. C'est l'Association des psychiatres américains qui, après 60 ans de réserve, sort de sa réserve et décide de psychanalyser, diagnostiquer un homme public à distance. Alors, ils le disent bien, c'est à distance, parce qu'ils n'ont pas eu rendez-vous dans le bureau ovale avec Donald Trump.
Alors, on va préciser, hein, c'est 27 psychiatres. Le collectif s'appelle Duty to Warm. Devoir d'alerter le personnel politique américain du danger qu'encourent aujourd'hui les États-Unis. Leurs conférences sont de plus en plus suivies. Et en effet, ils enfreignent des règles de base de leur métier, des règles éthiques. C'est-à-dire, ils vont délivrer un diagnostic sur Donald Trump à distance.
Ils le disent, il y a urgence. Alors, diagnostic à distance, Donald Trump est un personnage public depuis 40 ans à la télé. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de pudique. Mm-hmm. Donc, en fait, ils peuvent se le permettre et ils le disent et ils l'assument. Voilà.
Et ils assument également d'enfreindre ce qu'on appelle la confidentialité du diagnostic, qui fait partie aussi des règles de pratique de la psychanalyse et de la psychiatrie. Ils se mettent d'accord autour d'un trouble qu'ils qualifient de narcissisme malveillant, mélange de narcissisme, paranoïa, trouble de la personnalité antisociale et sadisme. Vous avez décidé d'étayer chacune de leurs propositions en confrontant finalement des séquences où l'on voit Donald Trump en action et où l'on entend les mots de Donald Trump, c'est extrêmement important dans le documentaire, et de les confronter à la fois au diagnostic des psychiatres et au témoignage de correspondants à la Maison Blanche.
Oui, des anciens conseillers, un ami d'enfance. Mm-hmm. Le documentaire que vous avez vu n'était pas complet. Hein. Il y avait 70 minutes, il y en aura 90. Mm-hmm. Il y a Michael Wolff aussi qui est présent.
L'auteur de Fire and Fury.
Et on a voulu montrer un Donald Trump narcissique, impulsif, menteur. Il tweet 4 fois par jour. Il y a quasiment un mensonge tous les jours. C'est un président qui a un bilan. Nous, on l'a fait à l'exercice et à l'épreuve du pouvoir au bout d'un an. Quel est le bilan de ce président? Il ment. 12 plaintes pour harcèlement sexuel, sanctions à nouveau contre l'Iran, contre Cuba. Il a quitté les accords climatiques. Il retweet des tweets de groupuscules d'extrême droite.
Alors,
et
examen,
il y a de quoi s'alarmer quand même.
Examen de sa personnalité.
Apparemment, c'est un président qui a besoin de recevoir des informations très courtes. Il faut que le briefing ait seulement quelques lignes, pas trop de noms, pour qu'il se rappelle de quoi on a parlé le matin.
On doit lui montrer des images parce qu'il ne veut pas lire une note. Il ne peut pas. Il ne peut pas rester assis. Il est atteint d'une forme de handicap de l'apprentissage et d'un trouble du langage. Résultat, il n'arrive pas vraiment à dire ce qu'il pense. Il ne sait pas comment l'exprimer.
Voilà, trouble de la concentration et de l'apprentissage examiné par des spécialistes et doublé, dit-il, on l'entend pas dans ce son-là, doublé d'un tel narcissisme et d'un tel complexe de supériorité que de toute façon, il n'y a pas que des questions cognitives qui se posent à l'endroit de Donald Trump. Il y a aussi l'incapacité à accepter la parole de l'autre, tout simplement.
Il ne veut pas apprendre et les chefs d'État étrangers l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'il caresse son ego, son narcissisme quand il vient en France. Et qu'Emmanuel Macron, de façon très intelligente, lui offre un défilé militaire le 14 juillet. Il l'emmène au 3e étage de la Tour Eiffel, lui fait un grand repas. Ça caresse son ego. Mm-hmm. Il rentre à la Maison Blanche et il dit à ses conseillers, vous savez, l'Amérique était le premier allié historique de la France. Et ses conseillers rigolent parce que normalement, un président des États-Unis accepte une petite fiche,
connaît
un petit peu l'histoire, un minimum
etc.
l'histoire. Mmh. Et il rentre, il est tout étonné comme un enfant de 10 ans qui vient d'apprendre ça à l'école. Et les conseillers continuent, essayent de lui faire des notes, il les refuse totalement.
Alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit bien dans le doc, c'est ce qui plaît à l'électorat américain et Donald Trump l'assume. Lui, il dit « je suis moi, je ne me fie qu'à mes intuitions, je ne suis pas influencé, je ne suis pas manipulé par cette élite que je déteste et que vous détestez. Je suis un Américain, un vrai. » Donc finalement, cette situation, est-ce qu'elle n'arrange pas tout le monde? La presse qui en fait des choux gras, du clic, du buzz et de l'audience, et un président qui continue de mettre en scène ce cirque-là.
Je ne suis pas sûr, parce qu'on parle de son électorat. Son électorat, On va voir les résultats des élections intermédiaires au mois de novembre. Mm-hmm. Moi, je pense que ça va être une catastrophe pour lui. Regardez les derniers exemples, l'élection dans l'Alabama, qui est un état imperdable que le Parti républicain ne peut pas perdre. Il le perd. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a une réception. Et puis, il n'y a pas qu'un électorat. On parle de son électorat, les rednecks, un peu les gens un petit peu, un peu analphabètes. Mm-hmm. Enfin, c'est ça, mm-hmm. du fin fond des États-Unis. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a une vraie guerre culturelle. Il y a des banlieues riches qui ont voté aussi Donald Trump. C'est-à-dire, c'est tous ces gens qui ont refusé ce qu'a fait Barack Obama pendant des années, c'est-à-dire une ouverture sociétale, les minorités, le droit des femmes, les homosexuels, jusqu'aux transgenres, tout ça.
Justement.
Et Trump ne fait que déstructurer, détruire tout ce qu'a fait Barack Obama.
Ah oui, de manière même totalement obsessionnelle, c'est ce que vous montrez. Parlons de culture, les psychiatres se basent sur les mots d'un patient, en règle générale. Là, ils utilisent ses déclarations publiques et ses tweets, vous l'avez dit. Vous avez eu également consulté un linguiste qui utilise, alors là pour le coup, il a recensé tous les mots de Donald Trump. Le président utilise un vocabulaire très restreint. Le verbe le plus usité de son vocabulaire, c'est vouloir, to want. Obama, c'était penser, to think. Il parle lentement et il répète plusieurs fois les mêmes mots.
It's a great privilege. Greatest, great, 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 greatest, great, great, very, 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 very great Japanese. Amazing, amazing, amazing partners.
Amazing job, thank you.
Incredible, incredible, absolutely incredible people.
Amazing, ça veut dire incroyable. Incredible, c'est incroyable aussi. Enfin bref, tous ces superlatifs qui sont utilisés à longueur de temps. Alors, c'est à peine évoqué dans le doc et quand même, il faut le dire, c'est-à-dire c'est presque une enquête à charge. Quand est-ce que vous vous demandez si tout simplement c'est pas le vocabulaire, Victor Robert, d'un Américain moyen qui a réussi dans le business? Et c'est tout, il n'est que le produit de cette Amérique-là.
Alors peut-être, c'était moins embêtant quand il était milliardaire, si je puis dire, et homme d'affaires dans les années 70 mm-hmm. et 80 à New York. D'ailleurs, ses affaires n'ont pas été florissantes,
non,
il y a beaucoup
si
d'échecs.
Non, pas si florissantes qu'on le dit, oui.
Voilà, c'était moins embêtant quand il était animateur télé de oui. The Apprentice. Après, cet homme qui prend les commandes du pays le plus puissant de la planète, mm-hmm. ça devient un petit peu plus problématique.
Est-ce que il n'y avait pas aussi la nécessité de consulter d'autres psychiatres, c'est-à-dire des psychiatres qui peuvent considérer que le travail du collectif Duty of War, même s'il est composé de professionnels tout à fait respectés, est critiquable dans son approche, voire des psychiatres qui ont une autre lecture de l'état mental et des comportements du président américain?
Alors encore une fois, désolé Sonia, il y a une troisième partie dans le doc que vous n'avez pas vue, ouais. qui rééquilibre un petit ouais. peu tout ça, c'est-à-dire que...
J'ai vu une enquête très à charge,
oui,
très
oui.
bien ficelée, mais très à charge.
Merci. Pour le très bien ficelé. Mmh. Troisième partie, on rééquilibre un peu le propos, mmh. en fait. C'est-à-dire que on se demande s'il n'est pas, visionnaire, c'est un bien grand mot, si ce n'est pas une stratégie, la fameuse stratégie Nixon, vous en rappelez. C'est-à-dire que les conseillers de Nixon faisaient croire aux interlocuteurs étrangers, notamment aux Russes, parce qu'on était en pleine guerre froide, que Nixon était fou. Et ça leur permettait d'avoir beaucoup de choses au niveau diplomatique, parce qu'ils disaient « on tient pas notre président mm-hmm. ». Donc si vous nous donnez pas ça ou ça, il va appuyer sur le bouton.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Donc finalement, mise en scène acceptée et titillée oui. par les deux parties, par la presse comme par la Maison Blanche, comme ouais. par un président qui sait parfaitement se servir de cette image qu'il a de type impulsif et brut de décoffrage.
Ouais, mais contrairement à l'administration Nixon, je crois vraiment, mm-hmm. après... Je n'ai pas passé du temps, moi, à la mm-hmm. Maison-Blanche. On citait Michael Wolff mm-hmm. sur ce livre. Il passe quand même 200 jours là-bas.
Il passe 200 jours là-bas
et
vous avez accès à des correspondants
on
à la
Maison-Blanche.
On a accès à
des correspondants qui connaissent très bien Trump.
Voilà.
Ils confirment tous, c'est le chaos là-bas.
Merci beaucoup. Victor Robert, Trump est-il vraiment fou? Donc tout est dans le vraiment, on l'aura compris médicalement et journalistiquement.
Voilà.
Et ce sera diffusé en première partie de soirée sur C8 lundi soir. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Dans la tête des jeunes.
Oui, on s'intéresse à la psychologie des jeunes en danger de radicalisation ou déjà radicalisés. Nous recevons le psychiatre Serge Effèze et l'écrivain et professeur en psychologie Toby Nathan.